Salut, mec. Donc, voilà, c'est la dernière fois. Je vais faire une exhortation ici, malheureusement. Malheureusement, après 4 ans et demi. Mais en fait, pour moi, il reste 4 choses à dire. Et donc, je ne vais pas parler trop longtemps, mais je vais dire 4 choses. Et donc, on va commencer en Hébreux chapitre 11, parce que pour moi, c'est un chapitre, un de mes chapitres favoris dans la Bible. Mais il y a un passage là qui explique la situation qui est importante pour moi actuellement. Hébreux chapitre 11, on commence verset 1. Oh, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et il continue à dire l'histoire de Abel qui a fait un bon sacrifice, Enoch qui a marché avec Dieu, et Noé qui a fait l'arche pour sauver sa famille pendant le déluge, et Abraham, bien sûr, l'homme de foi qui a fait beaucoup de choses en réponse de ce que Dieu lui a dit, les choses difficiles à faire. Mais Abraham les a acceptées. Parce qu'il a dit, OK, si j'ai la foi en Dieu, il faut les faire. Et donc, il a répondu. Chaque fois, Dieu parlait à Abraham. Abraham a répondu. Et il a fait toutes les choses que Dieu a demandé. Et bon, il y a, en fait, l'histoire d'Abraham, c'est une histoire d'un homme qui était un voyageur. Parce qu'Abraham était, une chose que Dieu a dit à Abraham, c'est de voyager. D'immigrer, enfin d'émigrer, de sortir de son pays vers un pays qu'il ne connaissait pas, qu'il n'a jamais vu. Et bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de plan, pas de carte, pas de guide Michelin qui dit voilà, toutes les routes et tout ça, il n'y a pas de voiture et pas d'hôtel et tout ça. Donc, comment faire ce type de voyage? Oui, c'est par la foi, parce il n'y avait pas beaucoup d'infos. Au sujet du voyage. C'est juste, il faut accepter ce que Dieu dit. Et voilà, il y a un pays là-bas, très loin, mais vas-y. OK. Un peu difficile, mais il l'a fait, sans question, sans problème. Ou est-ce que c'est sans problème? Ou est-ce que c'est sans question? Oui, on peut dire. Mais continue à lire. On peut continuer à verset 12, qui parle encore d'Abraham. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, tous les hommes et femmes de foi, de grande foi dans l'Ancien Testament, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Voilà. Je suis dans cette situation. Voilà. On peut être attrapé entre deux pays. On peut dire, oui, j'aimais bien le pays que j'ai quitté. Mais aussi, il y a un autre pays où il faut aller. Et en fait, voilà, la situation avec Abraham, c'est que il a eu chaque jour, Sarah et Abraham, ils avaient le choix parce qu'ils pouvaient penser à l'ancien pays. Ils pouvaient décider, oh, ça ne va pas, je vais retourner en Babylonie. Pourquoi pas? Parce que le voyage, c'est trop difficile. Le pays, c'est inconnu, je ne sais pas s'il sera bon ou pas. Donc pourquoi pas? C'est trop difficile, je vais retourner en Babylone. Mais voilà, si on est coincé entre deux, ce n'est pas la foi. Mais la question pour Abraham et Sarah, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de mieux dans l'avenir dans cet autre pays? Et la réponse est bien sûr oui. Et pour nous, c'est la même chose, mais en fait, ce n'est ni l'Amérique ni la France qui est le bon pays. En fait, c'est le ciel qui est notre pays. Et n'importe ce que vous êtes américain ou français ou n'importe d'où vous venez, en fait, vous n'êtes pas chez vous. Et moi, je ne suis pas chez moi, ni en France, ni en Amérique. Parce que le pays que je désire, je ne l'ai jamais vu. C'est dans la distance, c'est loin. Et je ne peux pas le voir. Mais j'ai entendu beaucoup. J'ai entendu des bonnes choses. Mais c'est très loin. Et comment le désirer? Comment avoir l'assurance qu'il existe? Par la foi. Et ça, c'est le modèle que l'écrivain ici, il dit, le modèle pour nous. Le ciel, c'est comme le pays d'Abraham qui n'a jamais vu. Mais par la foi, il croyait que ça existe. Et que ça mérite tous les efforts pour faire le trajet, pour faire le voyage, malgré les difficultés, malgré la nostalgie pour l'ancien pays. Parce que je peux réussir, je peux atteindre ce pays si je fais le voyage avec la foi. C'est sûr. Et donc, je vous encourage d'avoir ce type de foi. N'importe quel pays vous vous trouvez, n'importe malgré les difficultés, malgré les problèmes qui arrivent, en fait, il y a un pays loin de chez nous. Mais en fait, ça, c'est vraiment chez nous. Et si vous avez la foi, vous pouvez y arriver. Le problème, bien sûr, c'est que c'est difficile, parce que la foi concerne ce qu'on ne voit pas. Verset 1, Hébreux chapitre 11, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et ça, c'est le problème. Je ne l'ai pas vu. Donc, est-ce qu'il existe vraiment? C'est une question de foi. Et si vous avez la foi, oui, on est sûr que ça existe. Donc, je vous encourage de continuer dans la foi et ne doutez pas que le pays existe et que ça mérite vos efforts. Deuxième, j'ai oublié une chose. 1 Pierre chapitre 2, il y a un autre passage que je veux lire. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Pierre parlait à la même chose. Verset 9. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs, bon, ça c'est nous, étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Et il continue à parler que nous sommes dans le milieu d'un pays qui est différent que nous, en fait. Nous sommes parmi les étrangers, n'importe où vous habitez, parce que vous êtes chrétien. Et si vous êtes chrétien, vous êtes étranger, parce que le reste du monde n'est pas comme vous. Il parle différent que vous. Il parle des choses différentes. Ils font le culte vers les autres dieux, l'argent, la sexualité, ou les drogues, ou les autres choses qui sont différentes que notre Dieu, en fait. Et je parle figurativement, mais vous comprenez ce que je dis. Le monde n'est pas chez nous, en fait. Nous sommes dans un pays étranger. Ils parlent une langue étrangère parmi nous. Et donc, il faut se souvenir que vous êtes étrangers dans ce monde. Et donc, il ne faut pas être conformé, il faut pas devenir comme le reste. Il faut se souvenir que c'est normal. Si vous vous trouvez différent que le reste du monde, bon, c'est normal. Ce n'est pas étrange, ce n'est pas une surprise. Et donc, acceptez que vous serez différent que le reste du monde. Si on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas être chrétien, en fait. Mais si vous acceptez que vous êtes différent, bon, vous êtes sur le bon chemin. Donc, deuxième. Psaume 19, il y a un principe que je vous donne. Probablement, vous le connaissez bien. Et c'est juste pour rappeler. Deuxièmement, je vous conseille, suivez la Bible. Voilà. Pas de surprise. Mais il faut se souvenir. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies. Elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. Plus douce que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti, pour qui les observe, l'avantage est grand. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a des grands avantages en observant les paroles de Dieu. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'alternatives. Et il y a une tentation dans le monde actuel, même pour les chrétiens, même pour nous, d'être influencé par les autres choses qui ne sont pas la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, la société. Qu'est-ce qui est populaire dans la société? La moralité change chaque... Est-ce qu'on peut accepter les choses parce que cette génération accepte les choses? Mais non. En fait, la Bible ne change pas. La moralité de Dieu ne change pas. Qu'est-ce qui doit me donner, qu'est-ce qui doit me guider pour chaque décision que je fais dans ma vie? Les opinions des hommes, les opinions des hommes politiques ou mes voisins ou mes amis, ou les tendances de la société du pays où j'habite, n'importe si c'est l'Amérique ou la France, non. Parce que les opinions des hommes changent avec chaque génération. Ce n'est pas une fondation, ce n'est pas une surface où je peux créer ma vie avec solidité, avec confiance. On ne peut pas se confier sur les hommes. On ne peut pas se confier sur les sondages qui arrivent dans la nouvelle, dans le téléjournal. Il y a des sondages, pourcentages qui supportent ça ou qui opposent ça. Donc, eh bien, ça ne prouve rien. En fait, les décisions que je dois prendre dans ma vie doivent tous venir de la Bible. Et ça, c'est la seule source pour avoir la confiance, pour rester ma vie en confiance, pour prendre les bonnes décisions dans ma vie. En fait, et c'est la même chose pour l'Église, comment faire les décisions dans l'Église? Est-ce qu'on peut faire un sondage de beaucoup d'Églises? Qu'est-ce qu'elles font? Non. Il faut chercher dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Et si la Bible dit faire quelque chose, donc, fais-le. Sinon, ne fais-le pas. Et donc, la question c'est à la fin, qu'est-ce que tu préfères? Un jour, nous allons tous être debout devant le juge de toute l'humanité. Et la question c'est, à ce moment-là, est-ce que tu préfères de dire à Dieu, oui, j'ai lu la Bible, et je l'ai pris comme les suggestions et les opinions, et j'ai ajouté un petit peu de choses, et j'ai changé un petit peu de choses, mais selon mon avis, ça n'y a pas de problème. Pour moi, ça ne marche pas. Ça me fait plein de peur de dire ça devant le juge d'humanité un jour. Pour moi, je préfère d'arriver devant Dieu un jour dans l'avenir, et de dire, Seigneur, j'ai essayé de faire exactement ce que tu m'as dit. Ni plus ni moins. Et j'ai beaucoup de confiance que ça, c'est le bon chemin pour moi. Et je vous conseille la même chose. En fait, troisième. Première lettre de Jean, chapitre 2. J'ai dit un petit peu au sujet, mais un peu de plus. C'est-à-dire ne pas avoir la confiance dans ce monde. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 15, on commence. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oh, ça c'est difficile à accepter. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui semblent permanentes. Quand je vois, par exemple, j'étais chez moi pendant les vacances en été en Caroline du Nord, et j'avais un peu de... C'est quoi le mot? Pas orgueil, mais une tendance vers l'orgueil. C'est ma maison. Ah, j'ai une belle maison. Ah, c'est une très belle maison. Et je suis fier de la maison. Mais la maison, c'est temporaire. Ça ne va pas rester à jamais. En fait, c'est juste les briques et le bois et tout ça, et un peu de pain et la pelouse qui est morte. Il y avait la chaleur en Caroline du Nord, donc la pelouse est morte. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Est-ce que ça, c'est vraiment, est-ce que mon confiance est dans la maison? Non, c'est ridicule. Et toutes les autres choses, mon compte à la banque, il n'y a pas beaucoup là, mais s'il y avait beaucoup là, est-ce que je peux avoir la confiance là? Bien sûr, non. Et toutes les autres petites choses qui sont pour nous les grandes choses, mais en fait, les petites choses. Mais il est facile de mettre la confiance dans les choses qui sont visibles dans ce monde. Ou les autres choses qui sont en fait, et ce n'est pas un péché d'avoir une maison ou un compte à la banque, mais il y a aussi des autres choses qui nous attirent. Par exemple, les choses qui nous attirent de la chair ou les yeux qui m'attirent. Mais en fait, qui sont les péchés, mais ils semblent bien. Ils semblent les choses qui m'attirent. Il faut résister. Il faut dire non aux choses qui donnent une gratification, c'est un mot français, qui donnent un petit peu de gratification temporaire, mais long terme, qui sont les péchés qui vont me séparer de Dieu. Et donc, il faut résister les tentations de se confier dans la gratification, dans les plaisirs du monde, qui persiste juste temporairement, mais en fait, qui vont disparaître en éternité. Et donc, il faut nous focaliser sur les choses qui vont continuer à l'éternité. Ce sont des choses spirituelles. Et si on perd la focalisation, si on perd le focus, si on perd la visibilité vers les choses importantes, il est plus facile d'être attiré par les choses du monde. Et donc, il faut nous focaliser sur l'éternité, parce que l'éternité, c'est ce qui compte. Toutes les petites choses, toutes les choses qui nous attirent, ils vont tous disparaître. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vous ai dit, je pense que je parlais à certains parmi vous, j'ai eu 4 ou 5 amis dans l'église en Caroline du Nord qui sont morts juste pendant les 4 ans et demi de notre séjour ici. Et ça fait penser, quand les amis commencent à mourir, on pense, ok, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte vraiment? En fait, c'est les choses éternelles qui comptent, et non pas les choses de ce monde. Ok, finalement. Jean chapitre 13, 35. Et c'est juste un mot pour me terminer. Et c'est, ça veut dire merci. Vous nous avez bien traités. Vous nous avez acceptés, accueillis les bras ouverts. Et malgré mon accent terrible en français, malgré le fait que je suis un Américain, vous nous avez acceptés. Et je dis merci à tous et à toutes. Vous êtes notre famille. Et je suis sûr que vous êtes chrétien parce que j'ai lu Jean chapitre 13 et verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc voilà. Et moi, bon, je l'apprécie beaucoup. Et vous êtes partie de ma famille. Et moi, je suis sûr que je suis partie de ta famille. Et donc, je vais vous souvenir pour le reste de ma vie. Donc, merci à tous et à toutes. Merci. Merci.